Voilà, donc hier soir, nous avons commencé le nouveau Pérec, 8e. Ce Pérec traite du délai d'un vœu. Jusqu'à quand le vœu y court? Alors, ça dépendra bien sûr de la manière comment on a exprimé la limite. Il y a différentes formulations qui donnent des incidences différentes. Et c'est ce qu'on va reprendre, simplement la Mishnah du Samech Amud Aleph, parce que notre daf d'aujourd'hui, c'est Samech Aleph. Mais pour bien comprendre, il vaut mieux reprendre la Mishnah. Alors la Mishnah de Daf Samech Amud Aleph, Konam Yain, Shani Toem, Hayom. Il s'interdit le vin Bekonam, mais en disant Hayom, que je ne goûte pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée en cours. Eno Asurela Chetersha. Ce vœu ne court que jusqu'à la tombée de la nuit. À la sortie des étoiles, c'est révolu. Shabbat Zou. Shabbat, c'est une semaine. Cette semaine, assombe quand la Shabbat, toute la semaine. Ve Shabbat, les Shavar. Et le jour du Shabbat, c'est lui qui couronne la semaine, qui clôture la semaine. Ben, il est au passé. Il fait partie du délai. Il n'est pas au futur comme en dehors du délai. Donc ça comprend aussi Shabbat, en d'autres termes. Chodesh Zen, assombe quand la Chodesh. Merosh Chodesh, les Haba. Cette fois-ci, le Rosh Chodesh ne fait pas partie. C'est déjà le premier jour du mois suivant. Shanazo asur bekol hashana. Toute l'année. Verosh hashana le'atid lavo. C'est au futur, ça veut dire c'est plus dans le délai du vœu. C'est déjà la nouvelle année. Shavuazé. Shavua, ça veut dire une centaine d'années. Un cycle avec la Shemitah. Asur bekol hashavua ve'shevi'it shavra. Ou le shavar. Et la Shevi'it, la septième année, fait partie du délai. Elle est au passé, pas au futur. Point. Vemamar yom echad, shabbat echad, chodesh echad, shana echad, shavua echad, asur meyom leyom. Pour tout ce qu'on a vu, si au lieu de dire shabbat zu ou ha shabbat, hayom, ou bien yom ze, il a juste dit yom echad, un jour, une semaine, un mois, alors là il s'agit d'un cycle entier. Un jour c'est un 24 heures. D'accord ? Okay. C'est pas la semaine en cours, c'est pas le jour en cours. Une semaine, ben c'est une semaine entière, un cycle entier. Et donc, c'est ça, miyom leyom, jour pour jour. Ce sera une année combien? 12 mois, jour pour jour. Un mois, 30 jours, jour pour jour, voilà.
Un mois, ce sera 30 jours. Parce qu'il y a le...
Faut voir, j'ai pas vu. Ad Pesach, Asur Hatsheyagia. Si maintenant il a dit jusqu'à un repère dans le calendrier, c'est la fête de Pesach. Ça signifie jusqu'à qu'arrive la fête. Dès que la fête arrive, c'est fini, il n'y a plus de vœux. Mais quand il y a Tcheyehe, Asur Hatsheyetse, s'il a dit jusqu'à que soit, jusqu'à qu'été la fête de Pessah, eh bien ça s'entend jusqu'à que la fête soit révolue. Parce que la fête soit, c'est-à-dire tant qu'elle est encore, eh bien c'est le vœu. Jusqu'à qu'elle ait été, donc ça veut dire qu'elle soit révolue. Point. Ad pnei Pessah, c'est machloket. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit jusque pnei Pessah, au devant de Pessah? Rabbi Meir Omer, asur hatsheyagia, Rabbi Yossi Omer, asur hatsheyetse. Ce cas est machloket. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bientôt, on va voir ça dans la Gemara. Quel est le point de machloket? Ça arrive. Mais pour l'instant, on est à Samech Alef, Amud Alef, à 5 lignes du haut de la page. Ibaya Lehu, on a eu lâché la suivante. Amar Yain Shani Toem. Yovel, il a dit, je fais un vœu de ne pas goûter le vin pour un Yovel. Ou pour le Yovel, faut voir. Mais en tout cas, la question elle est, qu'en est-il de l'année 50? Mai, shnata chamishim kelifnei chamishim, o keleachar chamishim. L'année 50 qui est l'année du jubilé, est-elle incluse dans le délai ou elle est déjà... comme appartenant au cycle suivant, et elle appartient plus au délai, c'est déjà au-delà. C'est comme Rosh Hashanah, c'est l'année suivante. Rosh Chodesh, c'est du mois suivant. Comment on considère la 50e année qui est l'année du Yovel? C'est la question. La Torah nous a bien clairement désigné, la 50e année sera année du Yovel. On a 7 fois une Shemitah, au terme des 7 fois 7 années, ben c'est la 7e année qui venait de passer, la Shemitah, et tout de suite on enclenche avec une 50e qui s'appelle Yovel. Et donc cette année, est-ce qu'elle est incluse dans le délai de Yovel qu'il a désigné comme délai pour son éder, ou elle n'est pas incluse. Alors la Gemara nous dit Tashma de Tania Plukta de Rabbi Yehuda et Rabbanan. Viens écouter une braïta qui présente à ce sujet Machloket Rabbi Yehuda et Chachamim. Le pasuk dit Vikidashtem et Chenat Achamishim Shana. Vous désignerez, vous proclamerez l'année de la cinquantième en tant que Yovel. Shenat Achamishim Atamone Veyatamone Shenat Achamishim Veachat. C'est la cinquantième qui est comptée et qui est désignée comme Yovel et non pas. Tu ne la comptes pas pour autre chose que cinquantième. Elle ne compte que pour une Yovel. Ne la compte pas aussi pour une première année. 51 voudrait dire la première de la Shemitah suivante. Mika Namrou, de là on dit nos maîtres, Yovel et Noole, les Minyan Shavua. L'année du Yovel ne compte pas pour la Shemitah suivante. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on enclenche le compte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour la prochaine Shemitah? Non pas à l'année du Yovel elle-même, mais au lendemain de cette 50e année. Comme quoi, le 50 est Yovel et rien d'autre. Il est Yovel du cycle précédent, ce n'est pas la première année du cycle suivant. Ce n'est pas la première année de la Shemitah suivante. Mais Rabbi Yehuda Omer, Yovel, olé le minyan shavua. Oui, l'année du Yovel qui est la 50e, dans le même temps, elle compte pour la 1 de la nouvelle Shavua, nouvelle Shemitah, le nouveau cycle de 7. Amroulo le Rabbi Yehuda, alors les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, Réu Omer, mais le texte nous dit, Shesh Shanin Tizra Sadecha Ven Kanela Chamesh. Une Shemitah, c'est combien d'années? 6 ans. La Torah dit 6 ans, tu travailles la terre, et la 7e, c'est le repos. Systématiquement, tu dois trouver ce modèle 6 et 1. Or là, après un Yovel, tu dis que on va compter que 5. On va travailler la terre 5 et la 6e sera la Shemitah, puisque le Yovel lui-même a compté comme la 1. Donc on n'a pas travaillé la terre 6 ans, puisque Yovel s'interdit, il y a les mêmes règles que la Shemitah l'année du Yovel. Donc on n'a pas travaillé la terre 2 années, la 49, qui est la 7e du dernier cycle, plus la 50e. Maintenant, la suivante. Pour nous, Chachamim, c'est la 1. On compte 6 années de travail, la 7e sera la Shemitah. C'est à la 57 qu'on fera Shemitah. Pour nous, c'est merveilleux. C'est conforme au Passouk. Mais pour toi, Rabbi Yehuda, qui dit que la 5 ans du Yovel compte pour la 1 de la nouvelle Shemitah, du nouveau cycle, si bien que la 1, on ne travaille pas, et la 7, on ne travaillera pas, ce sera la Shemitah. Et donc, il y a combien d'années entre? Il y a 5. Alors, ce n'est pas Shesh Shanim Tizra Sadecha. Ça colle pas. Et voilà la question qu'ils ont demandé à Rabbi Yehuda. Comment il s'en défend? Amar Lahem, il leur dit, les divrechem, Marie ou Omer, et d'après vous, j'aurai le même genre de remarque. Voilà, le texte nous dit, Vasat et Tatevoa, l'Ishlosh Shanim. Quand vous interrogerez, qu'est-ce qu'on mangera si on ne travaille pas la terre? Alors Hashem, il dit, Vetiviti et Birchati, j'ordonnerai ma bénédiction, il y aura l'abondance dans la 6e année. Et quoi, Veasat et Atevoa, les Shalosh Hashanim. Les Shalosh Hashanim, pour 3 ans, ça produira. La 6e sera capable de subvenir à vos besoins pour 3 ans. C'est quoi les 3 ans? Ben la 6, la 7 et la 8, jusqu'à ce qu'on ait obtenu la récolte. Donc, or ici, dans le cas de Yovel. Eh bien, ce sera 4. Arekan Arba, c'est pas 3 ans. Ça veut dire que Hachem, forcément, enverra sa bracha pour 4 années. Et voilà que ce sera donc la 48e. C'est la dernière année où on a pu travailler. C'est la 48e du dernier cycle. Qui est en plus, il y aura la même tête qui est la Shemitah, la Noun 50 qui est le Yovel. Et nous, on enlève jusqu'à qu'on obtienne les récoltes de la nouvelle année. Et donc, ça fera 4 ans. Et là, la Torah m'a dit 3. Ça colle pas. Qu'est-ce qu'il faudra dire? Elaïka, Leukma, Bichar, Shenei, Shavua. Il y a la solution en établissant ce pasouk dans le contexte courant. C'est quoi le contexte courant? C'est les autres années de Shemitot, quand il n'y a pas d'Yovel. C'est sur ça que la Torah dit Vassat et Tatevoal, Shlosh Hashanim. Bien entendu, quand il y aura un Yovel qui se rajoute, ça fera 4 ans. Mais la Torah a parlé du cas le plus courant. Et si c'est ce qu'il faudra dire là-bas, et vous conviendrez, vous aussi, Chachamim, alors dis-lui, Le sujet que vous m'opposez, ben ami aussi, Ikaleukma Bisharchnei Shavua, sur cette référence, Sheshanim Tizra Sadecha, vous m'en faites une remarque, mais je vais l'établir de la même manière, dans le contexte courant, à savoir, d'une Shemitah où il n'y a pas Yovel. C'est là où, effectivement, c'est Sheshanim qu'on travaille. Mais la Shemitah qui commence par un Yovel, effectivement, ce sera Chamesh Shanim qu'on travaille. Ce n'est pas une contradiction, ça ne dérange pas. La Torah a parlé pour le cas le plus courant. Donc, Rabbi Yehuda se maintient. Et donc, c'est Machloket Anaïm. Est-ce que l'année du jubilé compte pour Yovel et rien d'autre? Ou bien elle compte aussi pour la première du cycle suivant? Et ça donne que, voilà, en matière de Nedarim, c'est Machloket, comme on l'a annoncé dans le Tashma. Tashma de Tanya Plukta de Rabbi Yehuda Verabanan. Cette Machloket se répercute sur le sujet de Nedarim. Que si j'ai dit je prends sur moi Neder de ne pas consommer du vin jusqu'au Yovel, ça comprend quoi le Yovel? Est-ce que le Yovel, il est inclus dans le délai? Ou bien non, c'est déjà la première année du cycle suivant? Eh bien, ça sera la Machloket. Ensuite, Ad HaPessach Asur Vechoulé. On a dit dans la Mishnah que jusqu'à Pessach, ça s'entend jusqu'à qu'arrive Pessah. Si je dis Hatcheyehe à Pessah, ça s'entend jusqu'à qu'ait été la fête de Pessah, c'est-à-dire révolue. Tant qu'elle n'est pas achevée, terminée, c'est encore assourd. Et s'il a dit Hatpene, c'est là où il y a Machloket, Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Et on va comprendre le sujet de la Machloket tout de suite. Les Mimra, dit l'Agmara, cela veut dire de Rabbi Meir Savar l'Onaï, l'Inish Navshelisfeka. Un homme s'est mis pas dans un safek, dans quelque chose qui est incertain, qui est douteux. Mais Rabbi aussi, ça va, mais Rabbi aussi pense que oui, tout à fait, un homme s'est mis, c'est ça, se rentre dans un safek. Quel est le sujet? Si je traduis à penei ha pesach, panim c'est le devant, comme le quand quelqu'un se présente, il est de devant, de face. Donc la fête, c'est un délai, 7 jours. Pessah fait 7 jours. C'est quoi le devant? On pourrait se dire le devant, c'est le premier instant de la fête. Ce qui arrive et ce qui nous devance quand on va au devant de la fête. C'est ça qu'on a, le début de la fête. Oui, mais pas forcément. Peut-être le péné du deuxième jour, ou du quatrième jour, ou du septième jour. Ça s'appelle encore péné Pessah. C'est encore un temps qui s'appelle Pessah. Et le panim de ce temps-là. Plus même, la dernière heure ou la dernière minute, le penei d'un moment qui est encore Pessah. Donc ça serait très indéfini dans ce cas-là, si j'avais cette approche. Comment entendre ad penei à Pessah? Alors un Tana va me dire, un homme ne rentre pas dans cette ambiguïté. C'est le panim de quel instant? T'as des millions de secondes, t'as des milliers de minutes, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte sur 7 jours. Sur chaque instant, tu vas me dire, le péné, c'est indéfini, c'est trop... Non, un homme ne rentre pas dans ça. Il dit quelque chose de clair. Péné, Pessah, ça veut juste dire le début de la fête. Jusqu'au début de la fête. Jusqu'au panim de toute la fête. Pas d'un moment indéfini pendant la fête. Et l'autre, il pense qu'un homme parle d'une manière indéfinie, quitte à se rentrer dans le safek. Du coup, tu sais pas, alors c'est quand la limite? Quand il s'arrête ton vœu? Je ne saurais pas te dire. Est-ce que c'est le début du premier jour, le début du deuxième ou du quatrième, ou le début de la dernière heure du septième jour? Ça reste flou, j'ai parlé imprécis, et oui, mais je l'ai dit. J'ai dit quelque chose d'imprécis. Eh bien, ça donne un éder imprécis. Et du coup, tu dois t'en tenir. Jusqu'au dernier moment de la fête, tu bois pas de vin. Et c'est ça la machloked, Rabbi Meir, Rabbi Yossi. Rabbi Meir, il pense qu'un homme ne se rentre pas dans un safek. Il a la tête claire. Il dit des choses précises. Et donc voilà. C'est dès que la fête arrive, il n'y a plus de vœux. Rabbi aussi pense que non, un homme se met dans le safek. Demande à Gmara, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on entend ici dans cette machloquette. Vers Ouremini. Or, on va opposer à cette Mishnah une autre qui résonne exactement contraire. Contraire, c'est-à-dire les Shitot sont inversées. D'où le problème. Contradiction de Rabbi Meir sur lui-même, de Rabbi aussi sur lui-même. Que dit le texte? C'est dans Maseret Kiddushin. Mishieshlo shtekite banot. Quelqu'un qui a deux groupes de filles, ça veut dire il a deux filles. et encore deux filles. Mishtenashim, de deux femmes. Il était marié avec une première femme, il a eu deux filles. Puis avec une deuxième, il a eu deux filles. Et donc, les deux premières sont les plus grandes, les deux dernières sont les plus petites, forcément. Ve'amar, il a dit, Kidash, Tiad Bitiya Gedola, Veniyodea Im Gedola. Il a dit, voilà, j'ai reçu les Kiddushin. Que veut dire le père? Il a été Mekadesh, sa fille. Il a marié sa fille. Quand l'Ektana, c'est lui qui est de droit sur les Kiddushin de sa fille, tant qu'elle n'a pas 12 ans. Et donc, il dit, voilà, j'ai reçu les Kiddushin pour ma fille, la Gedola. Qui est la Gedola? J'aimerais savoir c'est qui. Il a 4 filles, ce monsieur. Et il dit lui-même, ni yodea im gedola shevik dolot, im gedola shevik tanot, vim ktana shevik dolot, shevik dola mina gedola shevik tanot. Je ne sais plus si c'est la grande par excellence, ou bien la grande des petites, ou même peut-être la petite des grandes qui s'appelle grande de manière relative par rapport aux deux autres qui sont plus petites. Kulan asurot, tivri Rabbi Meir. Sans toutes, ça fait keshetish. Elles peuvent plus se remarier. Tant qu'on n'a pas reçu de guet du khatan, celui qui a donné l'argent, des kiddushin, il doit donner un guet aux 3 filles, sans quoi aucune pourra se remarier. Safek et chétiche. Livre Rabbi Meir. Parce qu'un homme, il se met dans le safek. Tu as dit quelque chose qui est ambigu, qui pourrait signifier ou cette option, ou celle-ci, ou celle-là, 3 options possibles, et bien ça fait un safek kiddushin sur les 3. Il y a la seule qui échappe, Hout Minaktana Sheviktanot. Elle, d'aucune manière, s'appelle grande. C'est la petite des petites. Alors, ni elle est grande réellement, d'accord, puisque c'est la plus petite, ni elle est grande relativement à des plus jeunes. Donc, la plus petite, c'est la plus petite. Elle s'appellera d'aucune manière que Dola. C'est la seule qui échappe au Safek. Tandis que Rabbi Yossi Omer, Kulan Mutarot, c'est le contraire. Elles sont toutes autorisées. La seule qui est concernée par ces kiddushin, c'est la grande par excellence. La grande des grandes. Parce qu'un homme ne se met pas dans un safek, qui ne fait pas des choses ambiguës. Il a dit gdola, c'est gdola par excellence. C'est la gdola où il n'y a pas à hésiter. Point. Donc ça donne contradiction pour Rabbi Meir et pour Rabbi Yossi. Tantôt c'est Rabbi Meir qui dit lo machit inish nafshel isfeka chez nous. Et là-bas il dit oui, machit nafshel isfeka. Tantôt c'est, et voilà Rabbi aussi le contraire. Amar Rabbi Chanina Barav Dimi Amarav Mukhlefet Ashita, il nous faudra dire que les Shitot sont à inverser. Dans notre Mishnah, il faut inverser et restituer à chacun sa vraie opinion. C'est Rabbi Meir qui est Machmir dans Nedarim Atse Yetzea Pesar parce que Machitinish Nafshelis Feka. Et c'est Rabbi Yossi qui m'attire le neder à l'entrée de Pessah parce que c'est lui qui pense que l'homme a chitinish nafshelis feka, parallèlement au sujet de Kiddushin. Ve'atania, de manière posée, pas de manière à s'insurger, au contraire, c'est juste pour confirmer qu'on présente la Braïta. Et voici la Braïta qui confirme. La Braïta nous disait à Klal, kol shezmano kavua ve'amar ad penei. Si c'est un délai, c'est une référence qui est fixe, comme la fête de Pessah. Et il a dit jusqu'à Pnei Sezman, jusqu'à Pnei Pessah. Rabbi Meir Omer Atche Yetze, jusqu'à que soit révolue la fête. Et Rabbi Yosemer Atche Agia, jusqu'à qu'arrive la fête. Cette version de la Braïta, elle est inversée par rapport à la version de notre Mishnah. Ça confirme ce qu'a dit Rav, que Moukhlef et Ashita. Que dans notre Mishnah, ça s'est confondu, mais il faut remettre de l'ordre. C'est Rabbi Meir qui est Mekil, pardon, qui est Machmir, et Rabbi aussi qui est Mekil. Et ça donne que réellement, Rabbi Meir est conforme sur toute la ligne, et Rabbi aussi de même. Ça répond d'un même principe, où je tiens le principe que Machitinish Navshel Isfeka, je l'applique dans toutes les applications, que ce soit dans Nedarim ou que ce soit dans Kiddushin. Où je tiens l'omachitinish nafshelisfeka et je l'applique dans les deux domaines. Voilà pour ce qui est de la contradiction. Et après, il faut voir dans les rishonim qu'est-ce qui est retenu en halakha, parce qu'il y a un klal d'habitude. Rabbi Meir ve Rabbi Yossi, halakha ke Rabbi Yossi. Mais faut-il encore savoir qu'est-ce que pense chacun? Et ça veut dire que nous, on a une conclusion ici. Alors, voilà, la conclusion du chas, c'est de dire que Rabbi Yossi, c'est lui qui pense que l'omachitinish. Donc on devrait faire la Kula et dans Nedarim et dans Kiddushin. C'est possible, et c'est ce que certains Rishonim pensent. Mais d'autres pensent pas comme ça, parce que dans Maseret Kiddushin, quand on a confronté les deux références, il y a cette réponse plus une autre. Et l'autre n'en vient pas à Mouchlef et Tachita. Donc ça brouille un peu les cartes, qui pense quoi, etc. Si on maintient les avis dans notre Mishnah, ça donne que Rabbi aussi, il est marmer, il te dit qu'il faut attendre que la fête soit passée pour commencer le vin. Donc c'est, faut voir, très bien. Mishnah, Adakatsir, Adabatsir, Adamasik. Katsir, c'est les moissons des céréales. Batsir, les vendanges. Masik, c'est la cueillette des olives. Si j'ai fixé tel délai pour un vœu, ça se rapporte sur Konam Yain Shenitoem. Je m'interdis de goûter du vin jusqu'à telle échéance. Eno Asur Elachiagia. L'intention, c'est jusqu'à que n'arrive ce délai parce que c'est un délai particulier. C'est pas un instant T. Le katir, ça dure une certaine durée. C'est plusieurs semaines de travail, j'imagine. Batsir et Masik de même. Donc c'est à quel instant de ce délai que tu t'es référé? Eh bien, la Mishnah nous dit, quand tu as dit « Ada Katsir », ça veut dire jusqu'à que commencent les moissons. Zéaklal. Voici en règle générale. « Kol shizmano kavua ve'amar ad sheyagia asurat sheyagia » Tout délai qui est fixe, c'est pas flottant sur le calendrier, c'est fixe. C'est le cas des fêtes. La fête de Pessah, par exemple. Alors, si tu as dit « Ad Sheyagia » jusqu'à Kariv, c'est « Asur » jusqu'à Kariv. Et si tu as dit « Amar Ad Sheyehe », c'est « Asur Ad Sheyetse ». Comme on l'a dit précédemment dans la Mishnah d'avant qu'on a relu, il y avait « Ad Pessah », c'est jusqu'à Kariv la fête de Pessah. « Ad Sheyehe » jusqu'à qu'ait été la fête de Pessah, c'est-à-dire évolue. Ça, d'accord. Et donc ça, c'est le klal pour les repères qu'on a présentés dans la Mishnah précédente. Mais, kol she en zmano kavua, ce qui n'a pas un zman fixe, comme le sujet de katir, batir et masik, puisque chaque année, c'est selon les récoltes, si elles sont matures, elles sont à point, on peut déjà vendanger ou récolter, etc. Donc c'est pas très fixe. Alors là, amar, atche... Ben Amaratcheyehe, Ben Amaratcheyagia, Eno Asur, Elatcheyagia. Qu'il ait dit Atcheyehe, ou qu'il ait dit Atcheyagia, ce n'est Asur que Atcheyagia. C'est quoi le chidouche? C'est que même s'il a dit Atcheyehe, on ne dit pas jusqu'à qu'aient été les vendanges, ça veut dire jusqu'à que s'est révolu tout le délai des vendanges. Non, ça veut dire jusqu'à qu'arrive le début des vendanges. Pourquoi? Parce que comme c'est quelque chose qui est flottant, c'est pas très déterminé, alors on présume que c'est ça son intention. Jusqu'à que commence les vendanges. Juste un instant. Si bien que d'après cette lecture de la Mishnah, le Ran nous dira que quand on a dit dans la Recha de notre Mishnah, Ada Katsir, Ada Batsir, Ada Masik, je précise que les Ran sur notre Mishnah sont dans le Hamoud Aleph, ils ne sont pas sur place, ils sont plus hauts. Là-bas, il dit le Ran, Kelomar, Afilo Amar Atcheyehe, même s'il a dit Atcheyehe. Ce n'est pas explicite dans la Mishnah. Mais la Mishnah veut dire que quand il va dire Ad, n'importe quel Ad, ce sera Atcheyagia. Que ce soit le Ad ou que ce soit le Atcheyehe, ce sera l'équivalent de Ad, Sheyagia et pas plus. Et comme ça s'entend de Kedekatani Tama, dit le Ran. Comme ça s'entend du Taam que la Mishnah elle donne. Que quand on te dit Kol Shen Zmano Kavua, en l'occurrence Katir, Batir, Masik, alors le Zman n'étant pas fixe sur une. C'est une échéance qui est variable d'une année à l'autre, alors ça donne que quoi? Soit qu'on ait dit Atcheyehe ou qu'on ait dit Atcheyagia, c'est le même din. C'est dès que c'est arrivé, ça s'arrête. Donc voilà la règle, et voilà donc qu'il y a deux types de repères. Il y a ce qui est fixe, comme une fête, et il y a ce qui est flottant, comme la période de telle récolte, etc. Et donc il y a cette subtilité. Maintenant, la Mishnah termine avec Kaït. C'est encore une sorte de récolte. Cette fois-ci, c'est la récolte des figues. Ad Sheyeh Kaït, ça veut dire jusqu'à que soit Kaïtz. Non, pardon, excusez-moi. Ada Kaïtz, ou bien qu'il est dit Hachéya Kaïtz, ben c'est le même din. C'est Hachéya Triluam, l'Echnis, Bakal Kalot. C'est jusqu'à que les gens commencent à mettre les figues dans les paniers. Ça veut dire qu'ils commencent la cueillette. Mais c'est encore une fois ce qu'on a vu juste au-dessus. On applique ce qui a été dit, sauf qu'on va rajouter. Mais pour l'instant, le Kaïtz est à la même enseigne que Katsir, Batsir, Masik. Ça relève du klal qu'on vient de préciser. Quand le délai n'est pas très défini, chaque année, il y a une autre période, c'est pas les mêmes jours où on commence le Kaïtz, la cueillette des figues. Alors là aussi, dès que tu dis Ad, que ce soit le Ad à Kaïtz ou Ad Cheyehe, c'est le même din. C'est jusqu'au début de la période de Kaïtz. Aujourd'hui, l'été s'appelle Kaïtz. C'est parce que cette période-là, ça correspond avec l'été. On a besoin de faire sécher les figues. D'accord ? Alors, il est coupé. Il est cueillé. Il est coupé. Il faisait une entaille. Et il les ouvrait, il les laissait sécher. Et après, il faisait des blocs de figues sèches, etc. Donc, c'est pendant l'été. Donc maintenant, pour ce qui est de la Kaïtz, la Mishnah, elle applique le principe qu'on vient de citer juste au-dessus. Que t'es dit « Adakaït ». C'est comme ça qu'il en ressort d'après le Ran et pas mal de Rishonim. Pas tout le monde a cette lecture de la Mishnah, mais certains ont compris que « Katsir, Batsir, Masik » et « Kaït ». C'est sur ça qu'il y a le klal de « Enzmano Kavua ». Parce qu'on ne sait pas quand ça commence la période. Alors dans tous les cas, ce sera jusqu'à que commence cette période. Donc quand je prends en repère un délai qui est Memouchar, qui a une durée, Katsir, ça a une durée. Batsir, ça a une durée. C'est plusieurs semaines de travail. Et que c'est quelque chose qui est flottant, quand je dis Ad, que ce soit Ad chez Yagia, que j'ai dit Ad chez Yagia, ou que j'ai dit Ad tout court, Ad à Katsir, Ad à Batsir, ou que j'ai dit Ad chez Yehé, même que j'ai dit Ad chez Yehé, d'habitude, ça veut dire jusqu'à que ce soit révolu. Non, pas ici. Ici, ça veut dire jusqu'à que commence ce délai. Maintenant, ça, c'est une réplique de ce qu'on a vu juste au-dessus, sauf avec l'exemple de Kaïtz, mais la Mishnah rajoute. Hachiyavor Akaïtz, si maintenant il a dit jusqu'à que soit passé le Kaïtz, Hachiyakpilu Amaktsuot, ça signifie jusqu'à que on ferme les canifs. Maktsuot, c'est une sorte de couteau, comme un canif, tel qu'il est décrit dans le Pirouche du Roche. Et c'est pourquoi on parle de le fermer pour le ranger jusqu'à l'année prochaine. À quoi il servait, disent Roche et Ran? C'est le fameux couteau qui servait à entailler les figues pour les faire sécher. Mais pas pour les cueillir. La cueillette des figues se fait à la main, comme on va voir, et c'est à ce titre qu'on l'appelle Kaïtz, Milachon Ktsitsa. Ça se fait à la main. Donc, quand tu as dit Hachéyavor à Kaïtz, là tu as été éloquent, tu as dit la fin de la saison du traitement des figues. Alors c'est quoi le Kaïtz? C'est pas juste la cueillette. Pour avoir un produit conditionnable, un produit fini, on a pris du temps, on laisse sécher dans les champs, etc. Et après, on les tasse. Et alors, on doit avoir rangé ce couteau que ce travail est terminé. Alors, ça s'appelle que le délai est révolu. Gemara, Tana, dans une braïta, c'est enseigné « Kalkala shamru, kalkala shel tenim, velo kalkala shel anavim. » Cette dernière phrase de la Mishnah, qu'on a dit à Cheyavor à Kaïtz. C'est quoi Kaïtz? C'est les récoltes de l'été, la saison de l'été. Eh bien, ça fait référence aux figues, et non pas aux vendanges. C'est quoi l'idée? Alors déjà, le Ran nous dit que, c'est vrai, le mot Kaïtz renvoie plus à Ténim que à Navim. À Navim, ça s'appelle Betsira. Et Ténim, ça s'appelle Kaïtz, parce qu'on est kotsets à la main. Très bien, ça c'est pour la résonance du terme, c'est pourquoi on va s'en tenir au lachon bené Adam, que langage parlé, quand tu parles de Kaïtz, eh ben, c'est plutôt les figues et non pas les vignes. Ok, mais qu'est-ce que ça a comme incidence pratique? C'est que s'il a dit Kaïtz, on ne va pas dire que c'est les vendanges, le délai il court toujours, le vœu il court toujours jusqu'à la fin des vendanges, jusqu'à Kaïtz au sens des vendanges. On ne dira pas ça. C'est au sens de la récolte des figues. Et les vendanges, je crois que c'est ultérieur Alors on n'aura pas besoin d'attendre encore plus tard pour boire le vin. Dès que c'est fini l'opération des figues, c'est ça qu'on entendait dans le vœu. C'est ce que la Braïta veut préciser parce que même si on aurait pu imaginer que ça renvoie à d'autres cueillettes, non, kaït c'est spécifique aux figues parce qu'on les kotsets beyad, c'est pourquoi ça s'appelle kaït. Et donc c'est que les figues et non pas autre chose. Tania dans une autre Braïta. Hanoder miperot akait, celui qui fait neder de s'interdire les fruits de kait. C'est quoi les fruits de kait? En asurila bateinim. Akait, ça veut dire les figues qu'on coupe à la main, qu'on est kotset. C'est ça le nom kait. Il y a un nom pour chaque cueillette dans la Shona Kodesh. Il y a le katsir pour les céréales, il y a le batir pour les raisins, etc. Et pour les figues, il y a un nom approprié, c'est kait. Alors quand tu dis kait, tu as parlé des figues et uniquement. Rabban Shimon ben Gamliel Omer anavim bichlal teinim. Les raisins aussi, c'est inclus dans teinim. Que signifie? La Gemara commente. Maïtama de Tanakama. La raison du Tanakama, kasavar teinim miktetsan beyada, anavim lo miktetsan beyada. C'est propre à teinim de parler de kait, parce que les teinim seuls sont niktats beyad. On les cueille en les détachant à la main. Il y a certainement un geste pour que ça décroche directement, sans couteau, sans rien. Mais anavim lo miktetsan beyada. Des grappes de raisin, il faut un sécateur, il faut quelque chose pour les couper. Et donc, ça n'a pas le même nom. Et c'est pourquoi les anavim ne sont pas inclus dans kait. Donc quand tu as dit « je m'interdis les fruits du kait », ça ne comprend pas les raisins, c'est que les figues. Rabban Shimon ben Gamliel Savar. Mais les raisins aussi, quand la tige elle est miradedan, elle s'est ramollie, elle s'est asséchée, alors c'est cassant. Et comme elle est cassante, c'est miktsetsan beyada. On n'a pas besoin du sécateur, on fait un petit geste cassant et hop, on prend la grappe. Et donc ce qui fait que les raisins, des fois aussi, la méthode c'est la même que les figues, si bien que perot akait, ça peut inclure aussi les raisins. Et donc, d'après Rashbag, si quelqu'un il a fait un tel vœu, je m'interdis perot akait, ça comprend aussi les raisins. Tanaka m'a dit non, mais en général, les raisins, c'est pas à la main. En général, ils font un sécateur, alors on va pas. On tient pas que la chône bnei Adam, ça inclut raisins, non. Mais Rashbag, il pense que oui. Est-ce que cette machloquette, elle a une incidence sur le sujet précédent? Quand on parle du délai d'un vœu, on vient de voir dans la Braïta, si j'ai dit kait, c'est le délai opération figue, c'est pas le délai opération vendange. Parce que kait, c'est spécifique aux figues. Est-ce que d'après Rashbag, on va dire, ben, faut s'en tenir aussi au délai vendange. Si les vendanges sont ultérieures à la cueillette des figues, mon éder, il court toujours jusqu'à après les vendanges. Je me demande, a priori, c'est ce qui devrait advenir. J'ai pas trouvé de confirmation, mais c'est ce qui devrait normalement advenir. Ad sheyavor hakait, ad sheyirfelu. Comme ça disait la Mishnah, s'il a précisé jusqu'à que soit révolu, c'est ça que Yavor Akait, alors ça veut dire qu'on est achevé l'opération. Qu'est-ce qui marque l'achèvement de l'opération figue? C'est que les artisans ont fermé le canif. On l'a rangé pour l'année suivante. Tana, Achiakpilu Rov Amaktuot. Dans la Braïta, c'est précisé le Rov. C'est pas besoin que tout le monde ait déjà fermé le canif. Si le Rov des canifs sont fermés, ça s'appelle la fin. Dans le langage de Bnei Adam, ce qu'on appelle la fin de l'opération, c'est que les cultivateurs en majorité, ils tournent la page. S'il y en a encore quelques-uns qui traînent à finir encore un peu, c'est pas ça qui va allonger le délai. Le délai, c'est en référence à Rov. C'est ce qui s'entend, la Shon Ben Adam, c'est ça qu'on définit ici. Tana, dans une braïta, Ukfelu Rov Amaktuot Mutarot. Mutarot Mishum Gezel, Upturot Namasrot. Deux incidences pratiques. À part le sujet de Nedarim qu'on vient de voir, on nous dit que ce repère de Ukfelu Rov Amaktuot, ça détermine deux choses. D'abord, il n'y a plus l'histoire de vol. On est dans les champs. Peut-être pas les champs privés, je ne sais pas. On laissait les figues en étalage pour sécher. Et après, on les ramenait, on les tassait dans des igoulim. Ou peut-être on en faisait des blocs Et aussi, on a taillé le bloc à la forme d'un igoul. Un igoul, c'est comme un chavit arrondi. Je ne sais pas si c'est un chavit comme on l'entend autrefois une enfant, je ne crois pas. Mais je crois que c'est, comme c'est décrit dans Rashi ailleurs, un récipient en demi-rond. On tasse les figues, ça fait un pain de figues compact, figues sèches. Et ça se vendait comme ça. Ça se conditionnait comme ça, ça se vendait comme ça. Maintenant, nous dit la Braïta, dès lors que Huk Pelou Rova Maktsuot, il n'y a plus le problème de Gezel. Je vais dans les champs, je trouve, eh ben je peux me servir. La production, elle a été achevée. Ils ont embarqué leur récolte. Le produit, il était fini, il est conditionné, ils l'ont emporté. Mais qu'est-ce qui reste là? Il reste des choses que les producteurs ont certainement délaissées. Ils ont abandonné. C'est Efker. Chachamim soit même de statuer, c'est Efker. Parce qu'on estime qu'à un moment donné, ce qui peut rester à ce stade de l'année, c'est les petits restes que les cultivateurs n'ont pas l'intention de récupérer. C'est les restes de production qui traînent. Donc, c'est, compte-le comme Efker et c'est pas du vol. Tu peux le prendre. Plus, Ptourot Mina Maasrot. En Eretz Israël, tu n'auras pas besoin de prélever les Maasrot parce que c'est Efker. Or, il y a un principe que ce qui est Efker est exempt des Maasrot parce que la Torah a bien dit Uba Levi, qui est l'Orelek Venachalaimar. Le Levi vient réclamer son Maaser. Il vient pour que tu lui donnes son Maaser, plus précisément, sans qu'il te le réclame. Mais tu lui le donnes. Pourquoi il est de droit sur le Maaser? Parce que l'Orelek Venachalaimar. Il n'a pas de part dans ton héritage. Toi, tu as reçu une part, un territoire dans Eretz Israël. Toi, c'est les différents Shvatim. Mais Shevet Lévi n'a pas de part dans l'héritage d'Eretz Israël. Alors, on lui donne le Maaser. Mais dans le Hefker, est-ce qu'il est lésé par rapport à nous? Il n'a pas moins que nous. Tout le monde peut se servir Hefker. Là, il n'y a pas cette mitzvah de donner au Lévi. C'est pas uniquement pour le Maaser Rishon du Lévi. C'est aussi pour la Teruma ou le Maaser Sheni. Il n'y a aucun prélèvement qui s'impose sur Efker. Donc dès lors que ce reste de production est statué Efker, deux choses. C'est plus du vol et quand je prends pour manger, je n'ai pas besoin de prélever. La Braïta poursuit avec une histoire. Rabbi ve Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda iklaou lehu atra bizman shukfelu rov ha-maktuot. Rabbeinu HaKadosh et Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, sont rentrés dans un endroit à cette période de l'année. Les producteurs de figues sèches avaient plié le canif, ils l'avaient rangé, en tout cas le rov. Rabbi Avakahin, alors Rabbi se permettait de manger, il se sert, quel est le problème? Je prends, comme on a dit plus haut, c'est ça la règle. Rabbi Yossi bar Avida, lo achi, il ne voulait pas manger. Atam Araon, Amar Lehu Amay lo achle Rabbanan. Le propriétaire du champ arrive et dit « Mais pourquoi les Rabbanan n'ont pas voulu se permettre de manger ?»« Mais Oukpelou Rova Maktsot, c'est pourtant le stade Oukpelou Rova Maktsot, c'est bien le principe qu'on connaît, voilà, à partir de ce stade, on est tout permis, c'est Efker, pourquoi vous vous gênez ?» Et donc normalement, à partir de là, Rabbi Yossi bar Abiyuda n'avait aucune raison de s'en priver. « Ve'afal piken lo achim Rabbi Yossi bar Abiyuda » Et malgré tout, dit la Braïta, il ne s'est pas autorisé. Il ne voulait pas en prendre. Pourquoi? Ça, c'est la Gemara qui commente. Il considérait que c'est par Sanyut Milta. Alors, certains Rishonim disent c'est de manière comme amère, à l'encontre du Chacham. Comment vous vous permettez? Ah, il n'osait pas leur dire en face. Alors il a fait genre de dire « Oh, vous aurez pu vous servir sans problème, on est à ce stade de l'année. » Mais lui, il n'avait pas encore rendu Efker. Et donc, il était indisposé. Mais sinon, il aurait dit clairement « Mais vous êtes en train de me voler. » C'est ce que Rabbi Yossi bar Abiyuda voulait entendre dans son discours. Des fois, tu dis des choses, mais parce que tu te gênes, tu n'oses pas dire la chose que tu ressens. Tu dis le contraire. D'accord? Bon, le Roche nous dit que c'est une question de gêne personnelle. Sanoui Milta, c'est quelque chose de détestable, de méprisable, qui ne se dit pas. D'accord? C'était gênant pour lui de leur sortir ça en face, mais il leur aurait bien dit, mais vous êtes en train de me voler, je n'ai pas rendu Efker encore. Ça, c'est le Roche. Bon, les autres Rishonim, c'est un peu différent. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est pas à prendre Comme une parole sincère, je ne peux pas manger. Il ne m'a pas révélé qu'il a été mafkir. Ah, il a dit, mais on peut se servir à partir de ce stade. Mais non, il a dit parce qu'il se gêne de nous. Et donc, c'est pourquoi Rabbi Sibra Rabuda n'a pas mangé. C'est la fin de l'histoire, la braïta s'arrête là. Mais il faut comprendre pourquoi chacun une autre attitude. Rabbi, il est plus permissif que Rabbi Sibra Rabuda. Et Rabbi Sibra Rabuda ne connaît pas la loi. C'est une loi, c'est une halakha. Déjà, il faut se dire que quand les chachamim établissent une règle, qu'à partir d'un moment c'est permis, parce qu'on estime qu'un homme normal à ce stade de l'année, il a rendu efker. Et si je suis tombé sur quelqu'un qui n'a pas rendu efker, alors je suis un voleur? Surtout pas. Alors Rabbi, il était voleur. D'après l'explication du Roche, que ce patron-là, ben, il n'avait pas encore rendu efker. Lui, personnellement. Alors Rabbeinu Akadosh, dans sa vie, ça lui arrivait de voler. On ne peut pas dire un truc pareil. C'est impensable, un truc pareil. Et c'est aussi impensable de dire que les Chachamim nous disent « Tu peux te risquer, et si jamais je tombe sur quelqu'un qui n'a pas encore rendu efker, alors j'étais voleur. » On ne peut pas me dire « Risque-toi. » Il faut être sûr du coup, avant de toucher à ce qui n'est pas à nous. Les Chachamim, ils ont la force de fixer une loi en matière de mamonot, ils peuvent dire. À partir de là, c'est efker. Et même si quelqu'un n'a pas encore rendu efker, parce qu'en général, c'est rendu efker, nous statuons c'est efker. Et on a une décision qui, à force de loi, on appelle ça efker, bedin, efker. Ce que le bedin, Chazal, déclare efker, c'est efker, que tu le veuilles ou non. Ils font des règles qui doivent s'appliquer et qui donnent un droit à quelqu'un de prendre, sinon, alors il n'y a plus de loi. Il faut bien fixer à un moment donné que c'est devenu efker. Et si Alpirov, les gens l'ont rendu efker, et eux, ils savent nous dire à partir de quand on peut statuer. Une fois qu'ils ont statué, c'est validé. Ne reviens plus sur ça, n'hésite pas, c'est moutard, il n'y a pas de problème. Tu veux faire la Khumra, tu peux faire la Khumra. C'est ce qu'il faisait Rabbi Yossi Rabbi Hanina et Rabbi Yossi Rabbi Yuda. Mais Rabbi ne fait pas la Khumra. Pourquoi il ne fait pas la Khumra, hein? Eh bien, ils ont ramené là dans la Gemara, ils ont ramené au nom de Tiferet Zion. Rabbeinu Akadosh, s'il ne fait pas la Khumra, alors la halakha ne sera pas validée aux yeux des Talmidim. Ils vont dire... Nos références s'abstiennent, c'est que l'halakha est branlante ou c'est pas une halakha à retenue, tranchée. Mais Rabbeinu HaKadosh, qui est l'autorité suprême dans sa génération, si lui, il fait halakha, les maaseh comme ça, ça s'appelle maaseh rav, on a vu comment le rav s'est conduit. C'est une halakha tranchée, validée, et on peut le retranscrire dans Shulchan Aruch. C'était le but, c'est pourquoi Rabbeinu HaKadosh, pour montrer clairement que c'est ça. Alors souvent les Tanaïm, quand ils ont fait une koula, peut-être que personnellement, ils auraient fait la Khumra, mais ils se sont accordé la Kula juste parce qu'il fallait trancher et fixer pour les Dorot que c'est comme ça l'Halakha. Si lui s'est permis, là on a bien vu que c'est une Halakha formelle et que oui. Ça c'est pour l'histoire et le sujet. Très bien. Voilà pour aujourd'hui. Et demain il y aura... Ok.
C'est très intéressant. Pardonnez-moi Rabbi, c'est-à-dire que là...